Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 24 de Rabi al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le sixième cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre L'épreuve évangélique de l'Allama al-Sheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés encore une fois dans cette sous-partie ou ce sous-chapitre que j'ai intitulé La proclamation explicite dans l'évangile que Jésus alayhi salam est un serviteur de Dieu. Nous étions arrêtés donc à cette histoire rapportée de la rencontre de Isa alayhi salam, Jésus, la rencontre présumée de Jésus alayhi salam avec cette femme cananéenne. Puis Cheikh dit rahimahullah, dans le chapitre 19 versets 16 et 17, donc toujours dans l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 19 versets 16 et 17, un jeune est allé au Messie et lui a dit: et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit: maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Cheikh de dire, il y a en cela la reconnaissance qu'il est un serviteur de Dieu. Il y a dans cette parole de Jésus, alayhi salam, qu'il est un serviteur de Dieu. Lorsque cette personne l'interroge sur le bon, il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Puis Cheikh, rahmallah, de rapporter que dans le chapitre 21, le verset 45 et 46. J'ai rapporté encore une fois dans la marge ces deux versets que je vais lire. Donc dans le verset 45 et 46 du chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu, nous trouvons: en attendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules car elles le tenaient pour un prophète. Cheikh de nous dire, rahimahullah, quand ils voulurent l'arrêter, ils prirent peur face aux foules, car il était pour eux un prophète. Il y a en cela une preuve que l'ensemble des croyants en Jésus, alayhi salam, à son époque, ne croyaient pas qu'il était une divinité, ni le fils de Dieu, ni l'un des trois hypostases, mais ils croyaient plutôt qu'il était seulement un prophète. Les trois hypostases, donc le principe de la Trinité que j'expliquerai un peu plus en détail dans les cours prochains, incha'Allah. Il s'agit là d'un des plus forts arguments contre eux qui affirme sa divinité si seulement il raisonnait. Puis Cheikh de rapporter et de dire, dans le chapitre 23, verset 8, nous trouvons: pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Cheikh de nous dire, rahmallah, il y a là la preuve que l'ensemble des croyants en Jésus, à son époque, ne croyaient pas qu'il était une divinité, ni le fils de Dieu, ni le fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni l'un des trois hypostases, mais ils croyaient plutôt qu'il était seulement un prophète. Et cela constitue l'un des plus forts arguments contre eux, qui affirme sa divinité si seulement ils réfléchissaient. Puis Cheikh rapporte que dans le chapitre 23, verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. » Il y a dans ce verset une preuve que le Messie est un serviteur et que le Maître est unique et que ce Maître est Dieu. Ils ont certes traduit ce verset en arabe en le déformant intentionnellement, faisant croire par cela que le Messie est le Maître, Rabb. En revanche, la traduction anglaise est exempte de cette fausseté. Comme nous l'avons vu précédemment, concernant la traduction de l'anglais à l'arabe du terme « Lord », qui veut dire donc qu'on pourrait traduire en arabe par « Seyyid » plutôt que « Rabb ». Donc, ces derniers, lors de leur traduction de l'anglais vers l'arabe, ont traduit le mot « Lord », qui est le mot de « Monseigneur »,« Monsieur »,« Monseigneur », par le terme « Rabb »,« Rabbi », qui est un terme qui est employé pour désigner Allah, tabaraka wa ta'ala, pour désigner Dieu, azza wa jal. Mais ici, nous voyons que ces derniers l'ont déformé lors de leur traduction de l'anglais vers l'arabe et ont traduit ce terme « Lord », donc « Monsieur, Monseigneur » par le terme « Rabbi » au lieu de traduire par un terme qui serait plus approprié, le mot « Sayyid » qui voudrait dire le maître, mais pas dans le sens du maître absolu, Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Le sens maître, donc Sayyid, dans le sens monseigneur, le seigneur, monseigneur, monsieur et autres. Donc comme le dit Shir, en revanche la traduction anglaise est exempte de cette fausseté. Nous voyons que dans certaines traductions francophones, nous trouvons cette déformation et altération du sens. Dans certaines traductions francophones, nous trouverons cette déformation et altération du sens, comme dans ces traductions arabes. Puis Shir de nous dire, il est dit également au verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. » Shir de dire, rahimahullah, en commentant cette parole, le verset 9, de ce chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu, il dit « Par cela tu sais que la paternité et la filiation ayant pour sens le lien entre le Seigneur et le serviteur sont affirmés dans l'évangile pour l'ensemble des gens et le Messie n'a pas de particularité dans cela. » Pour résumer, ici Ash-Shir nous met en évidence dans ce verset ou par ce verset que ce qui est venu dans la langue de l'évangile est l'appellation de fils pour l'ensemble, comme on l'a déjà détaillé précédemment, pour l'ensemble des serviteurs pieux, de même que le terme père pour désigner Dieu. Donc cette paternité et cette filiation a un sens dans l'évangile de lien entre le Seigneur et le serviteur. Ils sont affirmés dans l'évangile comme dans ce verset, dans plein d'autres versets que nous avons cités et que nous n'avons pas cités. Et ceci pour l'ensemble des gens, c'est-à-dire cette filiation et cette paternité et cette filiation qu'il y a entre le Seigneur, Azza wa Jal, et ses serviteurs pieux en particulier. Et le Messie, Jésus, alayhi salam, n'a pas de particularité dans cela, puisque ceci est affirmé, donc cette filiation est affirmée pour l'ensemble des serviteurs et pas pour lui, elle n'est pas affirmée pour lui en particulier. Et dans le chapitre 24, verset 36, « Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. » Ici, concernant cette expression « ni même le Fils », il est bon de noter que cette expression ne se trouve pas dans d'autres traductions francophones reconnues, ni dans la traduction anglophone de la Bible. Donc, ça c'est une petite note concernant cette traduction, ce passage, ni même le Fils, nous ne trouvons pas ce passage dans beaucoup de traductions reconnues de la Bible en français, ni même dans les traductions anglophones. Mais bien sûr, ici, nous avons évoqué ce passage comme tel, puisque notre condition est d'utiliser la traduction de la Bible, qui est la traduction œcuménique. TOB, traduction œcuménique de la Bible, qui résulte d'une coopération entre les théologiens catholiques et protestants et qui a été conçue pour l'étude biblique. Ceci est notre condition, ici dans la traduction de cet épître. Mais il est bon de noter quand même que cette partie-là ne se trouve pas ni dans la traduction anglaise ni dans plusieurs traductions reconnues françaises. Vous voyez, ici on revient encore une fois à ce qu'on a évoqué précédemment, cette déformation qui a eu lieu par certaines mains mal intentionnées, sans aucun doute, et aussi par la déformation de la traduction du passage d'un livre, ou de certains épîtres, les évangiles en l'occurrence, qui ont été écrits dans une langue, le grec ancien, qui est autre que la langue que parlait Jésus, alayhi salam, et ses disciples. De même que cette langue, le grec ancien, dans laquelle a été écrit ces évangiles-là, ces quatre évangiles, ont été traduites dans une autre langue, vers le latin, comme dans d'autres langues, de même que du latin vers les langues d'aujourd'hui, et chaque copie de la Bible que nous trouvons prend d'une autre traduction qui l'a précédée. Donc nous voyons ici que ceci n'est pas étrange de voir que dans certaines traductions de la Bible, nous trouverons certains passages qui seront rajoutés, peut-être enlevés et autres. Puis, Shir de nous dire, ceci est une preuve formelle, donc cette parole, ici, mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges. même pas les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Ceci est une preuve formelle que cette heure n'est connue de personne en dehors de Dieu. Il y a donc là une preuve que la connaissance du Messie est limitée, comme celle du reste des hommes. Dieu seul englobe toute chose de sa science. Et dans le chapitre 26, verset 39, il est dit que le Messie se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. » Chir de nous dire ici, si ceci est avéré, la personne qui a prononcé ces paroles était ignorante de la puissance de Dieu, mais reconnaissait être un serviteur de Dieu sujet à sa volonté. Ici, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, a dit, en commentaire de la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali, rahmallah, il dit, Cheikh, donc l'auteur, ne croit pas à l'authenticité de ce texte, comme tu peux le voir. Et il est dans son droit. Ainsi, il voit donc que celui qui a dit cela est une personne ignorante de la puissance de Dieu. Il est donc, d'après lui, autre que le prophète d'Allah, Isa, Jésus, alayhi salam. Ici, c'est ce commentaire de Cheikh Rabi' pour, hafidahullah, pour détailler cette parole de Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali qu'une personne pourrait comprendre comme un manque de respect envers Jésus, alayhi salam. Et sans aucun doute, Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, ne cherche pas cela, ne veut pas cela. Plutôt, comme l'a expliqué ici Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah, dans ce commentaire, ici, Cheikh ne croit pas du tout qu'il est possible que Jésus, alayhi salam, ait prononcé ces paroles. Car ce sont les paroles, clairement, de quelqu'un qui est ignorant de la puissance de Dieu. Mais malgré cette ignorance de la puissance de Dieu, et malgré le fait que nous ne croyons pas que c'est la parole de Jésus, alayhi salam, il est bon de noter que cette parole, que les chrétiens prennent comme étant la parole de Jésus, qu'il fait partie des trois, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, et autre que cela parmi les principes de l'hypostase, nous voyons que ces derniers, il y a quand même dans cette parole une preuve contre cette croyance. Donc je reviens sur la parole de Eshir ici, lorsqu'il commente la parole, il est dit que le Messie se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, il conditionne. » Ici, la personne qui prononce ces paroles conditionne. Il ne pense pas, il ne sait pas si Dieu a la possibilité de le faire ou pas. Il dit « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Toutefois, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Malgré cette ignorance de la puissance de Dieu qui est clairement affichée dans ses paroles, mais il reconnaît quand même cette personne-là qui prononce ses paroles être un serviteur de Dieu, sujet à sa volonté. Qu'en est-il si cette personne était comme ils le prétendent, le Fils de Dieu ou l'un des trois hypostases? Voici ce que Cheikh a voulu mettre en évidence dans cette partie. Puis il dit, rahimallah, dans le chapitre 27, versets 7 et 8, après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Cher de nous dire, de là nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie. Elle le fut plutôt longtemps après, à partir de récits restés dans les esprits des gens. Nous comprenons cela de cette parole. C'est pourquoi ce champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Et le chir de nous dire, de là nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie. D'après cette parole qui est rapportée, la Bible n'est qu'un livre d'histoire, et comme on l'a déjà détaillé, donc sans chaîne de transmission, donc en fait ces histoires ne sont pas à rapporter. Ce ne sont pas des histoires à rapporter en soi, puisqu'il n'y a aucune chaîne de transmission. Mais nous voyons que c'est un livre plus à connotation historique, comme je l'ai évoqué précédemment, et qui a été écrit, comme on l'a déjà détaillé, longtemps après l'époque du Messie, alayhi salam. Donc il dit, Donald, nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie, elle le fut plutôt longtemps après elle, à partir de récits restés dans les esprits des gens. Puis, Cheikh de dire, rahimallah, au verset 46, il est dit, selon ce qu'ils prétendent, il est dit, que sur la croix, le Messie, cria d'une forte voix, Eli, Eli, lema sabachthani, qui se traduit ainsi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc dans la langue que parlait le Messie, ou en hébreu, il disait, Eli, Eli, ilahi, ilahi, lima sabachthani, Eli, Eli, lema sabachthani, c'est retranscrit comme cela dans la traduction de la Bible, Eli, Eli, lema sabachthani, qui se traduit ainsi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc ils prétendent que le Messie, Jésus, alayhi salam, sur la croix, comme ils le prétendent, a crié d'une forte voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Puis Chir de commenter en disant, ceci est une des plus grandes preuves que celui qui a prononcé ces paroles ne comptait pas parmi les croyants en Dieu, encore moins parmi les prophètes de Dieu, car Dieu ne manque pas à sa promesse et ses prophètes ne doutent pas de celle-ci. Ces derniers, les chrétiens qui, dans leur croyance, croient fermement en la crucifixion, et ceci fait partie des fondements de leur croyance, alors que nous, les musulmans, nous croyons que ceci n'était qu'un faux semblant, comme Allah, tabaraka wa ta'ala, le dit dans le Coran. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, le dit dans le Coran, dans sa parole, dans le sens. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Nous arrêterons là pour aujourd'hui, et le prochain chapitre que nous allons aborder est l'annonce de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile. Nous l'aborderons la semaine prochaine, inshallah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.